Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Bourdel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média, au menu tous les médias et toutes les formes de culture qui ne prennent pas de vacances. On est là. Vous retrouverez évidemment notre carré d'as, Hélène Manarino et son portrait inattendu, Bertrand Chameroy pour son écran de veille, Eva Rock pour son zapping du lendemain, et on ouvrira l'émission évidemment avec Charles Decamp et le journal des médias. L'info média du jour pointe les dégâts collatéraux du couvre-feu, le blackout à 21h est une catastrophe pour les salles de spectacle, et ce matin à 10h, le Premier ministre Jean Castex a demandé à recevoir les principaux dirigeants du cinéma et du théâtre pour leur dire quoi ? Eh bien, on ne sait pas, eux non plus. Quelles attentes ? Réponse avec Isabelle Gibal-Hardy et Jean-Robert Charrier, l'une dirige un cinéma, l'autre un théâtre. Inversement, la télévision s'adapte au couvre-feu. 6 à la maison, c'est la nouvelle quotidienne lancée hier à la surprise générale par France 2. Nous recevrons la conceptrice de cette nouvelle émission, Justine Planchon, Patrick Cohen, son co-présentateur avec Anne-Elisabeth Lemoine, ainsi que Bertrand Chameroy, chroniqueur de la bande ici, qu'ils nous ont emprunté et on est ravis pour lui. Enfin, l'humoriste Arnaud de Samer qui revient pour un nouveau spectacle qui raconte les 4 dernières années de sa vie. Le titre, c'est tout un programme. 2 mariages et un enterrement. Inutile de vous dire que les mariages ont foiré. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias. Quel est le sommaire du jour ?
L'inquiétude du monde du foot, la plainte de la police contre Mediapart, l'hommage de Plus belle la vie à Samuel Paty et la fin de Quibi.
On commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ?
France 2 pointe à la première place avec le retour de 10%. Les 2 épisodes de la série française ont été suivis en moyenne par 3,8 millions de téléspectateurs, soit 17,3% du public. C'est un très bon score, mais légèrement inférieur à l'excellent lancement de la saison 3 il y a 2 ans. C'est M6 qui se place deuxième avec la suite du meilleur pâtissier. Le concours animé par Julia Vignali a été suivi par 3 millions de personnes, soit 15% du public. C'est son meilleur score cette saison. TF1 s'est donc contenté de la 3e position avec la reprise de la saison 16 de Grey's Anatomy. Les 2 épisodes inédits affichent une moyenne de 2,7 millions de téléspectateurs seulement pour 11,9% de part d'audience. La Une est leader de peu sur les femmes de moins de 50 ans avec à peine 25% de part d'audience. Alors Grey's Anatomy, ce score, c'est 1,2 million de téléspectateurs en moins que la dernière soirée inédite de Grey's Anatomy au printemps dernier.
Culture Média.
Et vous commencez ce journal des médias avec une autre audience, celle de l'hommage national rendu au professeur Samuel Paty.
Hier, TF1, France 2 et les chaînes Info ont retransmis la cérémonie organisée à la Sorbonne en hommage au professeur assassiné la semaine dernière. La chaîne privée a pris l'antenne à 18h45 avec Julien Arnaud, Fabrice Dalméda et Adrien Gindre. La chaîne publique était en direct dès 18h30 avec Laurent Delahousse et Nathalie Saint-Cric. Alors côté audience, il faudra attendre plus tard dans la matinée pour avoir les chiffres des chaînes Info, mais je peux déjà vous donner ceux de TF1 et France 2. En ce qui concerne la cérémonie en elle-même, donc de 19h30 à 20h05, ils étaient 4,3 millions sur TF1, soit 19,5% du public. France 2 est juste derrière à 4,2 millions et 19,3% de part d'audience.
Presque 40% d'audience, sans compter les chaînes d'info continues. Question, que va devenir la chaîne Téléfoot ?
Voilà 2 mois à peine que la chaîne a été lancée et le monde du foot est inquiet quant à son avenir. Alors si elle s'est offert le nom de l'émission culte de TF1, la chaîne Téléfoot appartient au groupe sino-espagnol Mediapro. Il a débarqué dans le marché des droits sportifs français en 2018 en déboursant 780 millions d'euros pour s'offrir l'essentiel de la Ligue 1 et la Ligue 2 de 2020 à 2024, donc sur 4 saisons, donc coiffant au poteau Canal+ et Bein Sport notamment. Mais Mediapro est-il en mesure de payer ce qu'il doit à la Ligue de football professionnel, la LFP ? Il y a 15 jours, le groupe a demandé à renégocier le prix de la première saison de son contrat à cause de la crise sanitaire. Il a tenté d'obtenir un délai pour payer son échéance d'octobre, on en avait parlé, elle s'élève à 172 millions d'euros, mais la LFP n'a rien voulu entendre.
Et hier, Mediapro a organisé une conférence de presse pour mettre les choses au point et tenter ou rassurer le milieu du foot.
Oui, parce que les clubs sont inquiets, les droits de retransmission des matchs leur sont en grande partie reversés, ils craignent donc pour leur finances, mais Mediapro s'est voulu rassurant. Il a rappelé que le groupe existait depuis 25 ans, qu'il n'était pas question de remettre en question, voilà, je me répète un peu, le contrat de 4 ans qui lie donc Mediapro à la LFP, mais uniquement le montant de la première saison. Un processus de conciliation a été lancé et il pourrait durer 4 mois. Au passage, Mediapro a aussi communiqué pour la première fois sur le nombre d'abonnés à la chaîne Téléfoot. Il a tenu à démentir le chiffre calamiteux qui avait été donné par le Canard Enchaîné, un chiffre de 278 18 000 abonnés. Selon Mediapro, il y en aurait actuellement 600 000, donc le double, mais c'est 6 fois moins que le nombre nécessaire pour parvenir à l'équilibre financier. Alors là encore, le patron du groupe s'est montré confiant, je cite « Notre projet était pour 4 ans, nous le maintenons, on savait qu'il ne serait pas rentable dès la première année, on savait qu'on n'aurait pas des millions d'abonnés dès le premier jour, on se tient à ce projet. »
Tout à fait autre chose, le ministre de l'Intérieur porte plainte contre Mediapart.
C'est le point qu'il a annoncé hier, Gérald Darmanin a déposé plainte contre le site d'information d'Edoui Plenel pour diffamation publique envers la police nationale. En cause, un billet publié sur le blog de Mediapart, écrit par un des abonnés du site et non par un membre de sa rédaction, c'est important de le dire. Ce billet est intitulé « Exécution sommaire du suspect, nouvelle norme en matière de terrorisme ». Le texte prend pour cible la police, je cite donc ce billet, « Dès qu'il s'agit de terrorisme, c'est-à-dire d'un crime commis par une personne musulmane envers une personne non musulmane, la police semble avoir le droit, voire le devoir de tuer. » L'auteur du billet, qui a publié sous pseudonyme, dénonce, je cite, la barbarie policière qu'il compare à la barbarie terroriste. Alors du côté de Mediapart, on rappelle que le site n'est pas responsable du contenu du blog à partir du moment où il est hébergeur et non éditeur du blog. Par ailleurs, le site assure qu'aucune demande de dépublication du billet en question n'a été faite par le ministère ou un représentant de la police avant le dépôt de la plainte.
Et alors, niveau réactivité, Plus belle la vie a fait fort hier soir.
On parlait de l'hommage à Samuel Paty alors qu'il était diffusé en fin de journée en direct de la Sorbonne. Le feuilleton quotidien de France 3 a rebondi sur cette actualité tragique dans son épisode du jour.
Vous êtes là, vous aussi ?
Ah oui. La salle des profs, c'est le meilleur endroit pour rendre hommage à Samuel Paty.
Nathan est prévenu. Il va pas tarder à arriver.
Ça va, Claude ?
J'aurais pas pensé que ça aurait pu arriver à l'un d'entre vous.
Ben, c'est sûr. J'ai donné un cours d'éducation civique sur la liberté d'expression il y a à peine 2 semaines aux élèves.
C'est pas le moment de lâcher.
Non, surtout pas. On va continuer. Pour nos enfants. Pour la liberté d'expression, pour la liberté d'instruire, je vous soutiendrai de toutes mes forces.
Dans cette séquence, le proviseur Claude Rochat, la prof de français Cécilia Hornus et sa collègue Coralie Blin sont en salle des profs pour rendre hommage à leur confrère décapité la semaine dernière après avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Le métier de prof n'a jamais été aussi dur mais jamais aussi nécessaire. Merci d'y croire encore, ajoute le principal. Alors ce n'est pas la première fois que Plus belle la vie réagit ainsi à l'actualité. Le feuilleton s'est toujours attaché à s'ancrer dans la réalité et donc à réagir au drame qui secoue la société française. En septembre dernier d'ailleurs, un clin d'œil à Jacques Chirac avait été glissé dans l'épisode diffusé le lendemain de sa disparition. Et en 2015, les comédiens avaient aussi rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre.
Et puis on termine ce journal avec la mort d'un service de streaming.
Et oui, Quibi, c'est fini. Et dire que c'était censé être l'avenir du streaming. Alors Quibi...
C'est toujours drôle, on ne devrait pas rire. Ça nous fait toujours marrer.
Alors Quibi, c'est une plateforme lancée en avril dernier qui devait révolutionner la consommation de vidéos en ligne. Derrière ce projet, il y avait Jeffrey Katzenberg qui était le cofondateur des studios de cinéma DreamWorks et Meg Whitman qui était notamment l'une des premières patronnes du site d'enchères eBay. Les deux associés avaient convaincu tout le monde à Hollywood de les suivre dans ce projet où les contenus, qui pouvaient être des séries ou des unitaires, étaient imaginés pour être consommés en premier lieu sur le smartphone. Quibi avait levé 2 milliards de dollars pour produire des contenus de 10 minutes maximum, commandés à des grands noms comme Steven Soderbergh, Antoine Fuqua, Steven Spielberg et Catherine Hardwick.
Et alors pourquoi ça ferme si tôt ? Ils ont dépensé déjà les 2 milliards de dollars ?
Même pas en fait. Selon la presse américaine, il y aura encore plusieurs centaines de millions de dollars sur les comptes de Quibi, mais les deux fondateurs ont perdu espoir que le service décolle réellement. Alors qu'ils tablaient sur 7 millions d'abonnés à l'issue de la première année, les estimations avaient chuté à 2 millions seulement, à peine 2 mois après le lancement de Quibi. Il faut dire que le service a été dévoilé au public en avril, juste au moment où les États-Unis se sont confinés. Alors pas facile de vendre une offre conçue pour être consommée rapidement dans le bus ou dans le métro, quand tout le monde est installé chez soi et n'a rien d'autre à faire que de s'installer confortablement devant la télé. Alors Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman ont bien essayé de vendre Quibi, mais personne n'en a voulu. Reste désormais à voir si des programmes individuels pourraient être sauvés par d'autres plateformes de streaming.
Merci beaucoup Charles Decan, à demain pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre info média du jour, c'est la situation de crise que traverse en France l'industrie du spectacle et du cinéma. On sera avec Isabelle Gibalardi, propriétaire du cinéma Le Grand Action à Paris, et Jean-Robert Charrier, directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin, toujours à Paris. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Dans moins d'une heure, c'est l'actu chaude. Le Premier ministre Jean Castex va recevoir à sa demande une délégation de responsables du milieu du cinéma. On ignore la raison exacte de cette convocation, mais les professionnels du secteur espèrent obtenir un assouplissement des conditions imposées par le couvre-feu, à savoir une dérogation pour que les salles ferment plus tard. Alors, c'est absolument pas gagné, vu qu'on parle au contraire de durcir, comme un peu partout, les restrictions liées à la crise sanitaire. Les salles de spectacle et les cinémas ont beau tenter ou même réaménager leurs horaires, le manque à gagner est abyssal. Toutes ou la plupart sont au bord du gouffre. Beaucoup menacent de fermer définitivement. Pardon pour ce tableau un peu noir. Bonjour Isabelle Gibalardi.
Bonjour Philippe, merci pour cette invitation.
Merci d'être là. Vous êtes vice-présidente de l'Association française des cinémas d'art et essai et propriétaire du cinéma Le Grand Action à Paris, qui se trouve dans le 5e arrondissement. Bonjour Jean-Robert Charrier.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Je précise que vous nous parlez de chez vous, car vous avez été déclaré positif au Covid. Tout va bien ?
Enfin, cas contact, hein. pas positif pour l'instant.
Ah, on m'avait dit positif. Cas contact, pour l'instant, on ne sait pas. Asymptomatique, en tout cas.
Pas dans mon théâtre, hein, le contact, attention.
D'accord. Merci de le préciser également. Isabelle Gibalardi, savez-vous pourquoi Jean Castex a demandé à voir 6 responsables de votre profession dans 38 minutes, parmi lesquels la patronne de Gaumont, Sidonie Dumas, ou le président de la Fédération Nationale des Cinémas Français, Richard Patry?
Alors écoutez, ça, ce sont les secrets de la politique, donc je ne connais pas exactement les raisons de cette demande. Par contre, ce dont je peux vous parler, ce sont de nos revendications.
Ça, j'en doutais pas une seconde. Mais d'abord, ces gens-là, on leur a demandé de venir, c'est plus qu'une convocation, oui. Parce que c'est toujours un plaisir, oui, de parler avec le Premier ministre, et
oui,
même une obligation.
Tout à fait.
Mais il n'y a pas d'ordre du jour.
Bah, écoutez, moi je ne le connais pas, il y en a certainement un, mais moi je ne le connais pas.
Question à Jean-Robert Charrier avant qu'on revienne avec Isabelle. Est-ce qu'une réunion avec le Premier ministre est prévue pour vous, pour le monde du théâtre ?
J'en ai pas la moindre idée, non, je ne crois pas. Non.
Vous n'avez pas entendu ça. Le lendemain de l'annonce du couvre-feu qui obligeait 20 millions de Français à rester chez eux entre 21h et 6h, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a fait une demande de dérogation pour que les cinémas et les salles de spectacle ne ferment pas. Demande rejetée par le Premier ministre. On va commencer par ça, souvenez-vous.
Pour que des règles soient comprises, pour que des règles soient acceptées, il faut qu'elles soient les mêmes pour tous. S'agissant du secteur de la culture, j'y reviens, impacté par ces dispositions, nous déploierons tous les moyens, nous l'avons indiqué également hier, pour amortir le choc que cela va représenter pour lui, et les discussions continuent à cet effet. Je suis sûr, je l'ai entendu d'ailleurs, que ce secteur va aussi s'adapter à ces règles du jeu. Mais encore une fois, il est clair, il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde.
La réponse est sans appel. Est-ce que vous comprenez le sous-entendu de Jean Castex ? S'il accorde une dérogation à vos salles de cinéma, à vos salles de spectacle, les restaurateurs, pour ne citer qu'eux, vont prendre ça pour du favoritisme.
Non, nous ne comprenons pas tout à fait, non. Les salles de cinéma sont parmi les lieux les plus sûrs de France. Le président Macron l'a dit lui-même. Dans une salle de cinéma, nous respectons évidemment les distances sociales. Nos spectateurs gardent leur masque du début jusqu'à la fin. Ce sont des lieux totalement sûrs. Nous demandons au gouvernement.
Allez-y.
Nous demandons au gouvernement que le billet de cinéma serve de justificatif à une dérogation horaire.
Je vais poser la même question à Jean-Robert Charrier. Que pensez-vous de l'argument en sous-texte du Premier ministre ? S'il vous accorde cette dérogation, il va devoir l'accorder à beaucoup d'autres professions, notamment les restaurateurs.
Oui, sauf que il y a de plus en plus. Déjà pendant le confinement, ça montait la nécessité de culture et de. C'est pas du tout abstrait de dire ça, mais je veux dire on a besoin de affronter cette période épouvantable de culture, de cinéma, de théâtre. C'est plus qu'une nécessité. Je veux dire quand le président parle d'union des Français par rapport à, face à cette crise, un des meilleurs moyens d'être unis, un des meilleurs moyens de se soutenir et puis de s'élever un peu, c'est la culture.
J'ai bien compris, mais vous ne répondez pas à l'argument médical. Contrairement à Isabelle Gibalardi, Isabelle Gibalardi, je résume pour nos auditeurs, remet en cause cet argument médical. Vous le remettez pas en cause, mais vous dites la culture doit passer avant la santé, si je vous suis.
Effectivement aussi, mais je peux redire ce qu'elle dit. Je suis absolument d'accord avec elle. On a fait les bons petits soldats, tout est mis en place, les protocoles sanitaires sont mis en place dans les théâtres. Moi, je vis dans mon théâtre, je vis au-dessus de mon théâtre. Il y a à côté de moi une colocation avec des trentenaires et des quarantenaires qui vivent là. Avant le couvre-feu, ils faisaient des fêtes jusqu'à 3h, 4h du matin. Et puis là, depuis le couvre-feu, c'est exactement la même chose. Moi, je ferme mon théâtre bien sagement à 20h45. Et puis, leur fête à eux dure jusqu'à 6h15 du matin et ils rentrent chez eux.
Donc, est-ce que vous avez l'impression, pardonnez-moi, je vous interromps parce qu'il y a tellement de questions à vous poser. Est-ce que vous avez l'impression d'être soutenue par Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture ?
Absolument. Moi, oui, en tout cas, elle est extrêmement présente. Je sais qu'elle s'est battue comme une lionne pendant toute la journée du mercredi quand a été décidé ce couvre-feu à 21h pour que ce couvre-feu soit à 22h ou même à 23h. Et elle a absolument conscience qu'une heure de plus nous aiderait énormément financièrement.
Elle s'est battue comme une lionne. Et je voudrais qu'on fasse entendre le bras de fer entre Roselyne Bachelot et le reste de l'exécutif. En tout cas, l'interprétation qu'en a faite Nicolas Canteloup, c'était lundi sur Europe. Chez Canteloup, la ministre de la Culture racontait avoir plaidé la cause des théâtres et des cinémas auprès du président Macron.
J'ai demandé au président Macron une dérogation pour le monde de la culture. Mes amis du théâtre qui souffrent de l'opéra et qui souhaitaient pouvoir avoir une fermeture, 23 heures. Et Emmanuel Macron voulait 21 heures, vous le savez.
Et donc ?
Eh bien, Emmanuel a refusé 23 heures. J'ai donc fait un premier pas vers lui et je lui ai dit 22 heures. Et il a dit non, c'est 21h.
Bah et après ?
Oh ben je ne lâche rien, j'ai fait un deuxième pas vers lui. J'ai dit allez, Emmanuel, allons, 21h30. Il a dit non, 21h.
Et après ?
Ben, vous savez, je ne lâche rien. Donc j'ai fait un troisième pas vers lui, j'ai dit ok, va pour 21h. Il m'a dit écoute, faut que les gens quittent le théâtre au max à 20h30.
Roselyne Bachelot ne lâche rien, mais ce que ça dit, c'est que les hôpitaux passent avant les salles de spectacle.
Oui, les hôpitaux passent avant les salles de spectacle, bien entendu. Mais comme je l'ai dit, effectivement, les salles de cinéma sont totalement sûres par rapport à d'autres lieux qui sont ouverts à la fréquentation. Et ce que nous demandons, en l'occurrence...
Si vous savez quoi ? Ce que vous demandez, c'est la deuxième partie de Culture Média. On voulait faire l'état des lieux. Et ce que vous avez à demander à l'exécutif, au ministre de la Culture et au Premier ministre, vous restez avec nous, Isabelle Gibal-Hardy et Jean-Robert Charrier. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Après le confinement, le couvre-feu, les salles de théâtre, les salles de cinéma vont-elles résister à ces nouvelles mesures ? On en parle avec Isabelle Gibal-Hardy, vous dirigez le cinéma Le Grand Action à Paris. Et puis Jean-Robert Charrier, vous êtes le patron du théâtre de la Porte-Saint-Martin. Vous vouliez dire, Isabelle Gibal-Hardy, ce que vous attendez de l'exécutif, notamment du Premier ministre qui rencontre aujourd'hui des dirigeants du cinéma. Aujourd'hui, c'est même dans 29 minutes à 10h.
Notre revendication est simple. Nous demandons au gouvernement de permettre aux spectateurs de rentrer chez eux après 21h en se servant de leur billet de cinéma comme justificatif.
Mais on vous a déjà dit non. Vous pensez qu'ils vont se déjuger ?
Écoutez, nous avons des arguments sérieux. Nous avons des arguments. Si vous voulez, on nous a dit non parce que la culture n'est peut-être pas considérée comme quelque chose de vital sur le plan économique. La culture, à tort, parce que l'industrie du cinéma représente énormément en termes de masse salariale, en termes de chiffre d'affaires. Et comme l'a dit Jean-Robert tout à l'heure, Jean-Robert Charrier, la culture est quelque chose d'absolument vital. Et c'est de notre survie à nous, salles, arrêts, essais, que dépend le maintien de la pluralité culturelle.
Il y a une pétition qui a été lancée par l'acteur Pierre Deladonchamp pour une dérogation. Cette pétition a déjà recueilli 15 000 signatures. C'est beaucoup, c'est peu, 15 000. Est-ce que ça sert encore à quelque chose, les pétitions ?
Oui, bien sûr, les pétitions servent toujours à quelque chose, bien entendu, c'est une expression, c'est de la démocratie en œuvre, les pétitions, bien entendu, et 15 000, je ne saurais trop insister nos auditeurs à continuer à signer des pétitions. Nous avons besoin de nos spectateurs, nous exerçons ce métier par passion, nous, les exploitants à RSC, et nous avons besoin des spectateurs pour continuer à l'exercer et à vivre ensemble. Ce moment magique.
Jean-Robert Charrier, vous dirigez le théâtre de la Porte-Saint-Martin. En ce moment se joue la pièce Avant la retraite avec Noémie Lvovsky. Quels sont les horaires et combien de fauteuils perdez-vous chaque jour à cause des conditions sanitaires imposées ?
On était à une baisse de 35% de la jauge, donc on est passé de 1100 places à peu près 650 places dans la salle. 650 places que nous ne remplissons pas du tout. Je veux dire, on ne faisons pas semblant, on n'est pas du tout à 650 personnes par soir, déjà avant le couvre-feu. Et là, avec le couvre-feu, on a donc annulé la moitié des représentations par semaine. On a annulé mardi, mercredi, jeudi. On joue plus que le vendredi à 18h et le samedi, dimanche en matinée à 17h. C'est évidemment une catastrophe parce que quand le Castex dit qu'on doit s'adapter, la seule adaptation possible à ce couvre-feu, c'est une adaptation horaire. Ouais. Or, si on joue en semaine à 18h, on se prive de tous les actifs. On ne peut plus toucher que les personnes qui ne travaillent pas ou les personnes retraitées. Et les personnes retraitées, pour la plupart, flippent et restent chez elles de toute façon. Donc, c'est-à-dire, c'est le serpent qui mange la queue. On peut, il n'y a pas d'adaptation à faire. On a besoin d'une heure de plus. Ouais. Ça sera la seule façon de faire notre travail.
Juste un mot, les marges au théâtre sont assez faibles. Si vous perdez 40% sur la jauge, est-ce que ça veut dire que les spectacles sont plus rentables et qu'en fait, vous jouez, vous travaillez à perte?
Ah non, mais là, on travaille complètement à perte. C'est heureusement qu'on a, nous, en l'occurrence, on a un actionnaire, Marc-André Lacharrière, qui nous soutient et qui ne désespère pas encore de cette situation. Mais enfin, c'est une catastrophe industrielle pour plein de salles qui sont moins soutenues.
C'est la même chose pour vous, Isabelle Gibalardi, dans les cinémas, le vôtre et puis les autres, les cinémas travaillent à perte en ce moment?
Bah, écoutez, nous... Heureusement, nous sommes en France et l'interventionnisme étatique est très fort. Nous sommes soutenus par le gouvernement et par les collectivités territoriales, régions, villes.
Mais sans ces subventions, vous seriez mort.
Ah bien sûr, évidemment, évidemment.
Jusqu'à quand vous pouvez tenir comme ça? Est-ce que vous êtes menacé de faillite?
Écoutez, oui, beaucoup de cinémas ARS en France sont dans une situation absolument critique. Donc là, je fais un appel solennel. Rien ne remplace la vision du film en salle. Il y a une émulation collective. On est tous dans le noir. On ressent ensemble des émotions. Venez, venez dans nos salles.
Que pensez-vous du circuit MK2 qui démarre ses séances à 8h du matin?
Ben oui, c'est une période lors de laquelle il faut tout tenter, bien entendu.
Vous êtes posé la question, vous pouvez ouvrir à 8h du matin?
Écoutez, moi j'ouvre à 11h, ce qui est déjà assez tôt. Et là, c'est mes premières séances du matin. Marguerite, écoutez, je vais prendre un exemple. Je présente un doc grec dimanche à 11h et j'ai 65 spectateurs payants. Vous voyez, c'est
je ne m'en rends pas compte, c'est beaucoup, c'est peu.
C'est beaucoup. Oui, bah un dimanche matin à 11h, qui va aller voir un documentaire grec, même s'il est présenté par le jeune réalisateur? Oui, non, c'est beaucoup. C'est pour dire, il y a une vraie envie de cinéma. C'est bien pour ça que nous souhaiterions maintenir les séances de début de soirée.
Une question pour les professionnels qui nous écoutent, et ils sont nombreux. On sait que les gros exploitants de cinéma perdent parfois jusqu'à 75% de leur chiffre d'affaires. Or, les indépendants semblent s'en sortir un peu mieux, notamment grâce aux films art et essai que vous représentez, qui font des chiffres honnêtes. Par exemple, Antoinette dans les Cévennes, ça a dépassé les 700 000 entrées. Comment vous l'expliquez?
Alors, concernant les salles, alors il y a les salles art et essai et les films art et essai. Alors, premièrement, concernant les salles art et essai, il y a un lien très très fort entre nous et nos spectateurs. Jean-Robert Charrier disait qu'il vit dans sa salle. Moi aussi, je vis dans ma salle. Je vis au Grand Action. Donc, je suis identifiée par mes spectateurs qui souhaitent me soutenir. Et il en va de même pour tous mes confrères. Concernant les films art et essai, Antoinette dans les Cévennes vit cette magnifique carrière. D'abord, c'est un film plein de vie, c'est un film qui se passe à l'extérieur, au soleil, c'est un film plein d'élan vital. Les spectateurs ont besoin de ces films. Et comme les blockbusters américains ne sont pas au rendez-vous, bah du coup, les spectateurs se reportent sur les films art et essai.
Et ça pénalise les gros, gros multiplex. Jean-Robert Charrier, je vais poser la même question que j'ai posée à Isabelle Gibalardi. Qu'attendez-vous du gouvernement?
Là, il y a deux choses. Il y a tout l'aspect financier, évidemment. On a vraiment besoin d'un soutien qui s'engage sur des questions épineuses. Par exemple, il y a une question très 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 délicate, c'est la question des loyers. Mmh. Là, ça fait des mois que tous les théâtres payent des loyers monstrueux. On continue à payer des loyers de plusieurs centaines de milliers d'euros par an pour des outils de travail dont on ne peut pas se servir. Mmh. Il faut absolument que le gouvernement tranche et nous soutienne sur cette question-là. Et puis les questions de chômage partiel, tout ça c'est des questions économiques qui sont indispensables et qui vont de la survie des entreprises. Et après il y a la question de faire notre travail et de continuer à montrer nos œuvres, nos spectacles, aussi exigeants soient-ils, au public. Et là c'est la seule attente, c'est une dérogation pour une heure de plus.
Et nous aussi on vous suit, et je précise qu'on recevra à la fin de l'émission l'humoriste Arnaud de Samer qui continue, qui part en en tournée et qui n'arrête pas et qui continue à travailler. Merci beaucoup Isabelle Gibalardi. Je rappelle que votre cinéma, Le Grand Action, est ouvert donc à partir de 11h du matin.
Oui.
Jean-Robert Charrier, le patron du théâtre de la Porte Saint-Martin, pardon, vous êtes ouvert tous les jours à partir de 16h ou 17h, suivant la programmation. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Merci Philippe, merci pour votre invitation.
Dans un instant, on va parler de la nouvelle émission quotidienne qui a été lancée par France 2 hier. Ça s'appelle 6 à la maison. On sera avec la directrice des programmes de Troisième Œil, Justine Planchon, et le journaliste Patrick Cohen, parce qu'il est dans cette affaire. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Justine Planchon.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du développement et des programmes de la société de production de Troisième Œil. Bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour Philippe Vandel.
Je vous présente pas, avec la carrière que vous avez, rien que votre nom suffit.
Bon.
C'était le lancement que j'avais fait pour Patrick Cohen.
Ah oui, c'est
pour
vous dire.
Pour moi.
Comment ?
C'est sympa pour moi.
Justine, on vous connaît pas encore très bien, Justine Planchon. Vous êtes moins célèbre que Patrick Cohen quand
c'est
même.
Vrai.
Il faut bien le dire. Pourquoi vous êtes ici tous les deux ? Car Bertrand, on peut voir depuis récemment dans l'émission C'est à vous le vendredi, c'est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, produite par Troisième Œil, dont vous êtes la directrice des programmes Justine Planchon. Et puis, depuis hier, il y a une nouvelle émission sur France 2, produite par Troisième Œil. Ça s'appelle 6 à la maison. Justine, racontez le concept.
Le concept, il est simple. En fait, on a pensé avec Pierre-Antoine Capeton. Alors, je vais tous les citer parce qu'il y a plusieurs personnes.
Ah non, non, pas tous, parce que s'il faut qu'on rende
l'antenne. Stéphane Cid, Bon Gomez, Diego Buñuel, Michel Fil. Voilà, on s'est dit pour le couvre-feu, il faut absolument qu'on mette en lumière toutes les industries culturelles.
Je vous interromps tout de suite. Déjà, on s'est dit. Ce sont des gens de France 2 et des gens de Media One. Ce sont eux
non,
qui vous
Non, pas Media One, Troisième Œil
Production. Troisième Œil, vous avez raison. Mais parce que Pierre-Antoine Capeton est aussi le patron de
c'est
Media
vrai.
One. Quand vous dites « on s'est dit », c'est France Télévisions qui vous a appelé ou est-ce que c'est vous qui avez dit à France Télévisions « on a une très bonne idée pour le couvre-feu » ?
Alors, on est mercredi soir, il est 23h et avec Pierre-Antoine, on décide d'appeler France Télévisions. Et on leur dit « il faut faire quelque chose » et eux-mêmes avaient eu l'idée de faire quelque chose. Et c'est là qu'on a commencé à discuter.
Formidable. Alors racontez la réunion.
Non, mais la réunion, je ne peux pas vous la raconter. Mais en tout cas, la conclusion, c'est tout d'un coup. Se dire qu'il fallait aider les industries culturelles à remplir les salles de spectacle, les salles de concert, les cinémas, ouais. Les salles de théâtre. C'est faire venir des artistes afin qu'ils puissent s'exprimer. C'est faire venir des artistes afin qu'ils puissent montrer leur art. C'est les aider. Et puis, c'est surtout permettre aux Français de passer un couvre-feu agréable, tout en douceur, à l'encontre un peu de l'actualité un peu morose du moment.
Pourquoi cette émission, même si elle dépend plus de France Télévisions que de vous, qu'est-ce qui a présidé au choix de la chaîne ? Pourquoi cette émission est sur France 2 et non pas sur France 5, comme l'émission C'est à vous que vous produisez ?
Alors il faut appeler Stéphane Cid Bon Gomez pour ça.
Mais il vous a pas répondu, il vous a pas dit ça.
Bah écoutez, nous quand il nous a dit France 2, on a dit ok. On n'a pas cherché à savoir, on avait 4 jours pour monter une quotidienne.
Ouais.
Donc c'est vrai que voilà, France 2, très bien, ok, on fait. Et puis 4 jours, 4 nuits pour monter cette quotidienne avec Bertrand, Patrick, Cohen, Anne-Elisabeth Lemoine, Pierre-Antoine Capeton, et puis voilà.
Comment vous avez bâti le sommaire de la première ?
Le sommaire de la première, on s'est posé toutes les questions possibles, imaginables. Non, le sommaire de la première, bah, c'était en fait, l'idée était de parler de théâtre,
ouais.
De parler de musique, et de trouver des Madeleines de Proust qui nous donnent envie, enfin, qui nous fassent du bien. Voilà. Et les Madeleines de Proust, bah, c'était la télé d'Ardisson, les années Ardisson.
Ouais.
Le théâtre, c'était François Berléand. Et Julien Doré pour la musique, avec Bérangère Krief pour le One Man. Je pense que là, on a répondu à peu près à tous les arts possibles et imaginables.
Combien vous êtes pour fabriquer cette émission au quotidien ? Parce que c'est lourd, une quotidienne.
Ouais, c'est lourd. Déjà, alors, merci à l'ensemble de l'équipe éditoriale parce qu'ils ont fait un boulot de
vous
malade mental.
Vous n'allez pas citer tout le monde parce que j'ai vu une dizaine de rédacteurs. J'ai vu une dizaine de rédacteurs. Il faut du monde.
Voilà, ouais. Y a une dizaine de rédacteurs en prod aussi. Je peux vous dire que changer le plateau de C'est à vous pour en faire une maison, Bertrand, n'est-ce pas ? Et faire la chambre de Bertrand.
Ah, mais les équipes font vraiment un travail incroyable en très peu de temps.
Ouais, ça prend du temps. Et vraiment, la team Troisième Œil, c'est une famille. Et là, tout d'un coup, y a toute une famille qui s'est mise à l'ouvrage et en 4 jours on a sorti ça.
Alors Bertrand, on peut vous entendre tous les jours dans Culture Média à 10h,
oui.
On s'en réjouit, tous les vendredis dans C'est à vous, je l'ai dit cette fois, donc vous passez en quotidienne dans 6 à la maison. C'est quoi l'idée cette fois ? J'ai juste remarqué, comme l'a dit Justine Planchon, que vous étiez sur un lit.
Oui.
C'était donc hier soir et que vous ne vous étiez pas changé depuis notre matinale. Vous avez toujours cette jolie veste en daim rose pastel.
Alors, première précision, ce n'est pas du daim, cher Philippe. Et je ne me suis pas changé parce que effectivement après la radio, je file directement à la prod de Troisième Œil.
C'était à dessein que j'ai cité ce détail qui prouve que vous avez autre chose à faire qu'aller voir la costumière.
Ah bah, vous
comment vous travaillez, comment vous y arrivez et quel est votre cahier des charges? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire?
Alors l'idée, c'est je me trouve justement sur un lit puisque vu que les règles proposent de n'être pas plus de 6 à la maison, je ne peux pas être avec Anne-Elisabeth et Patrick autour de la table parce que sinon on serait beaucoup trop nombreux. Donc, étant donné que je suis le plus jeune, je suis dans ma chambre où j'ai internet et donc je peux consulter les sites médias, lire la presse, regarder la télé. Et l'idée, c'est de faire, c'est ce que je disais hier, je suis une abeille qui butine les infos pour faire du miel d'informations.
Mais comment vous faites pour... il faut une logistique de dingue quand même pour suivre à la fois ce qui se passe dans les médias, sur les écrans, sur internet. Combien vous êtes pour faire ça?
Pour Culture Média, je suis tout seul. Pour l'émission, j'ai la chance de pouvoir être aidé par un jeune homme qui s'appelle Timothy. Et on est tous les deux pour préparer cette chronique.
Voilà, vous étiez content de votre première?
Moi, personnellement, je me suis trouvé très stressé, mais ça, c'est moi. Ma mère trouvait que j'étais très mal coiffé, mais sinon, globalement, je suis très content.
On embrasse votre maman. Alors, je m'adresse aux auditeurs de Culture Média qui ne peuvent pas nous écouter pendant la première heure ou même pendant la première demi-heure. Bertrand Chameroy est présent dans l'émission aux alentours de 10h03. Il décortique la télé de la veille, comme par exemple le lendemain de l'allocution du président Macron au sujet du couvre-feu. Petit rappel, Bertrand Chameroy, ici sur Europe, dans ses œuvres.
Allez, avant de filer, petit conseil aux animateurs télé qui nous écoutent. Si d'aventure, Philippe Vandel vous interroge sur la tôle d'audience de votre dernière émission, réutilisez la formule du président sur Stop Covid et ses 493 alertes.
Alors, je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché.
Voilà. Nuance. Faudra penser à la ressortir, celle-ci.
Alors justement, Justine Planchon, complètement oublié de vous demander, comment elle était l'audience d'hier?
Écoutez, elle était plutôt bonne. Plus d'un million de téléspectateurs.
1,0 million, j'avais jamais eu ce chiffre. 1 million tout rond et 9,1% de part de marché. Franchement, pour une première, c'est vraiment pas mal.
Mais je pense que vraiment, les Français ont envie qu'on leur fasse du bien. Et là, je pense qu'on a répondu à une attente. Et puis surtout, la culture, ça fait du bien de se cultiver.
C'est pas à nous qu'il faut le dire. Ici, ça s'appelle Culture Média. On est absolument d'accord avec ça. Est-ce que France Télé vous a donné un objectif d'audience ou pas du tout?
Écoutez, la vérité, c'est qu'on n'est pas là pour faire des audiences. On est là pour répondre à un besoin. Et je pense qu'hier, on l'a fait et on le fera ce soir. Et cependant, 5 semaines.
Je le rappelle, si une émission ne fonctionne pas, on pourrait toujours dire comme ce qu'a repéré Chameroy chez le président Macron.
Alors, je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché.
C'est pas un échec, ça n'a pas marché. Justine Planchon, Bertrand Chameroy sont avec nous et Patrick Cohen vient d'entrer dans ce studio. On continue de parler de la nouvelle quotidienne de France 2. Ça s'appelle 6 à la maison. Ça a démarré hier soir et ils sont déjà là. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Je me suis même fait la chance. Nous sommes en direct et nous parlions de la continuité du Prime avec Justine Planchon, la productrice qui est passionnée au point de continuer l'interview pendant la pause. Justine Planchon, directrice des programmes de Troisième Œil, elle produit 6 à la maison, la nouvelle quotidienne de France 2, avec Patrick Cohen qui vient d'arriver. Bonjour Patrick.
Voilà. Bonjour.
Votre micro n'était pas ouvert.
Non, voilà, c'est moi qui...
Le gars qui fait semblant de découvrir la radio. J'ai vu l'émission hier, évidemment. Il y avait le comédien François Berléand, l'humoriste Bérangère Krief, Julien Doré, Thierry Ardisson. Je pourrais dire l'animateur, mais il se dit lui-même au chômage. Et je me suis dit, c'est construit comme un sommaire d'Ardisson. Il y a toujours, dans Tout le monde en parle, il m'avait expliqué ça un jour, il y a une star pour les jeunes, une star pour les gens plus âgés, un wannabe, quelqu'un en devenir, et un has-been. Et là, le has-been, c'était lui. C'est pas lui faire injure, c'est lui qui se décrit comme ça, alors qu'il n'est pas du tout has-been. Vous étiez très au point, Patrick, sur Thierry Ardisson, car justement, vous lui consacrez un numéro de votre émission Rembobina sur LCP, la chaîne parlementaire. Qu'est-ce qui vous intéresse chez lui?
Alors, ce qui nous a intéressé, c'est d'aller explorer ces deux premiers talk-shows qui étaient Bain de minuit puis Lunettes noires pour nuit blanche. Bain de minuit, c'était sur la défunte 5 et Lunettes, c'était sur Antenne 2 à l'époque et qui étaient à la fois de grandes révolutions pour ces fins de soirée à la télévision. Il a vraiment inventé une esthétique, une ambiance des talks qu'on ne voyait pas ailleurs. Et surtout un casting extraordinaire, on en a parlé hier soir dans l'émission, avec des séquences qu'on revoit aujourd'hui. On a scotché Julien Doré en lui montrant une interview de Francis Bacon. Il ne savait pas qu'il existait des interviews de Francis Bacon en français. Julien Doré a étudié aux Beaux-Arts. Et donc, il y avait une matière très riche avant le Thierry Ardisson des clashs et de tout le monde en parle.
Extraordinaire. Si on peut voir l'émission en replay, il y a quand il interview Bowie après une chanson et il lui parle comme s'il était avec le gars de la compagnie créole. C'est complètement hallucinant de voir la liberté que s'autorise Ardisson, dont il vous dit qu'il n'était pas conscient de cette liberté-là qu'il s'octroyait. Alors il a inventé, vous l'avez dit, plein de formats, notamment l'auto-interview. L'auto-interview, c'est un invité qui se pose des questions à lui-même. Et vous avez exhumé, Patrick, une interview ancienne d'Alain Juppé. C'était dans Lunettes noires pour nuit blanche, c'est en 88. Alain Juppé à la quarantaine. À l'époque, c'est l'un des jeunes cadres dynamiques, comme on disait à l'époque, du RPR Document.
Quel effet ça te fait de me voir ici? Bah, je trouve que t'as pas tellement changé. Depuis 2 ans, je t'avais déjà rencontré ici, t'as bien tenu le choc. Tu crois que tu ferais quoi si t'étais pas secrétaire général du RPR? J'aurais que l'embarras du choix. J'ai envie de faire plein de choses. Écrire, par exemple. Si t'étais une star du rock, ça serait qui? Ouais, peut-être un groupe à moi tout seul. Peut-être Lerita Mitsuko, c'est avec eux que j'ai inauguré la Cigale dans le 18e arrondissement. C'est une chouette soirée. Et si t'étais une star du cinéma, j'avais envie d'être Burt Lancaster dans le Guépard, justement. Et de la télé? Ouais, toi.
Voilà. Ça, c'est rigolo au son, mais à l'image, c'est désopilant parce qu'il faut voir Juppé avec des lunettes fumées de Marlou marseillais. Ouais. C'est
que, et vous n'osez pas le dire, moi étonnant. Je vais le dire, et sans cheveux. Et puis dire chouette soirée.
Oui, ça, sans cheveux, c'est pas une surprise, non?
Non, parce que c'était pas le look des invités qui étaient chez Ardisson. Oui, on était plutôt dans le chevelu, un peu décadent et limite punk. Ardisson, c'est pas fait que des amis dans le monde de la télé. Ses méthodes sont parfois critiquées, tout le monde le sait. Et justement, Patrick Cohen, hier, posait une très bonne question. Vous lui demandez s'il regrettait certaines séquences, comme un jour où il avait promis à Jean-Luc Godard qu'il serait seul sur le plateau. Il promet la même chose à Anna Karina, la comédienne qui était son ex-femme. Et évidemment, il y avait les deux sur le plateau. Ouais. Il filme la rencontre avec les larmes, le malaise qui s'ensuit.
Je crois que Godard était au courant, mais Anna Karina, pas du tout.
Vous posez la question à Ardisson, et là, c'était dans l'émission d'hier, il vous fait une drôle de confidence sur son enfance.
Vous savez, je pense sérieusement qu'un bon intervieweur, c'est quelqu'un qui, quand il était petit, arrachait les ailes des mouches. Moi, j'arrachais les ailes des mouches, franchement, hein. Et quand on arrache les ailes des mouches, il faut être un peu sadique.
Un peu vicieux, quoi.
Bah ouais, parce que les gens, vous n'avez pas envie de leur faire mal, a priori. Ouais. Pour sauver quelqu'un dans votre émission, vous n'avez pas envie de lui faire de la peine. Donc il faut se forcer un peu pour être un peu méchant.
Justine Planchon, vous êtes d'accord avec ça? Un bon animateur, il doit arracher les ailes des mouches. C'est à la productrice que je m'adresse.
Alors, je ne sais pas comment répondre à cette question.
Moi, je me suis dit en écoutant ça que j'étais un mauvais intervieweur.
Non, on n'est pas obligé d'être un dentiste et d'arracher des molaires pour d'un coup devenir un génial animateur.
C'était le sens de ma question. Bertrand Chamerois, voilà. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'un bon animateur doit avoir arraché les ailes des mouches auparavant?
Non, je ne pense pas. Ça peut aider peut-être, mais non. Si on peut éviter, c'est mieux.
C'est une image et c'est un symbole. Ce soir, c'est quoi la programmation?
Alors, ce soir, la programmation, c'est...
Vous le savez, je regarde ce que la tête de Patrick, on a l'impression que vous ne savez pas.
Il le sait tout à l'heure, il m'a dit, je suis ravi, on a Jacques Weber et Olivia Russe ce soir.
J'ai bossé une partie de la nuit là-dessus. Donc
mais non, mais on a, en fait, on ne dort pas depuis une semaine et donc on a le cerveau complètement choucrouté.
Ça allait être, donc... ça allait être une de mes questions à Patrick. Vous êtes quelqu'un qui travaille, qui ne se fait pas faire les choses par des stagiaires sous-payés. Comment vous arrivez à tenir une quotidienne ici sur Europe? C'est à vous, plus cette émission, 6 à la maison.
Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais non, c'est une semaine un peu chargée. Oui.
Combien de temps l'émission va durer? On vous a dit quoi? On vous a dit 1 mois, 2 mois, 3 mois? Parce que nous, on n'a pas d'infos sur la durée du couvre-feu. Est-ce que vous avez des infos, Justine Planchon?
Alors, la durée du couvre-feu, non. Mais non, on s'est dit qu'on allait tenir durant tout le couvre-feu.
D'accord, et on ne sait pas combien de temps il va durer. Voilà. Merci beaucoup Bertrand Chemerois, à tout à l'heure. Patrick, à tout à l'heure, on vous retrouve à 12h30 en direct. Merci beaucoup Justine Planchon. Je me dépêche pour dire que Culture Média continue. Il y a le rappel des titres de 10h. Il y a Eva Rock qui arrive, Bertrand qui reste. Et notre invité, ce sera l'humoriste Arnaud de Samer. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.